Le journal Bernadette Chamanaz, bonjour.
Bonjour à tous. Et à la une, un commandant de Daesh soupçonné d'un des plus grands massacres en Irak, arrêté en France, où il vivait sous le statut de réfugié politique. Il est mis en examen pour crime contre l'humanité. G7 éruptif, G7 de rupture, Emmanuel Macron va tenter de sauver ce qui peut l'être. Confidence à notre journaliste dans l'avion en vol pour le Québec. Quand les 100 voix travailleurs immigrés de Calabre crient leur colère après le meurtre de l'un des leurs, reportage, fausses informations, enjeu viral, enjeu vital pour la démocratie. Que peut faire la loi en débat à l'Assemblée? Élément de réponse dans le grand entretien avec vos invités à 8h20, Nicolas.
Oui, le sociologue Dominique Cardon, le journaliste au quotidien Le Monde, Samuel Laurent, intervenez dans ce débat au 01 45 24 7000.
Dans ce journal encore, suite des révélations Radio France sur les comptes de campagne du candidat Macron, la filière colza en danger par les importations d'huile de palme, les agriculteurs menacent de bloquer les raffineries la semaine prochaine. La Méditerranée mer la plus polluée au monde, niveau record de plastique, le rapport choc du WWF. Et puis Marco Cecchinato, l'inconnu des demi-finales de Roland-Garros, même on le verra dans son propre pays, l'Italie.
France Inter.
L'information a donc été confirmée hier soir par le parquet de Paris. Ahmed H, arrêté en mars dernier en France, où il vivait sous le statut de réfugié politique depuis plusieurs mois, serait un commandant, un ex-commandant de Daesh en Irak. Charlotte Piret, bonjour.
Bonjour.
Il est suspecté d'avoir participé à l'un des premiers grands massacres de l'organisation islamiste.
Oui, il aurait été l'administrateur pour Daesh de la région de Samara, c'est entre Mossoul et Bagdad, et surtout, il est donc soupçonné d'avoir activement participé au massacre de Tikrit. Nous sommes alors en juin 2014. Les djihadistes de l'État islamique fusillent un à un les 1700 jeunes soldats du camp Speicher. Quelques mois après, ce cadre de l'État islamique fuit le pays. Il parvient à rejoindre la Grèce, se faisant passer pour un réfugié, peu de temps avant que les commandos des attentats du 13 novembre ne suivent exactement la même route vers la France.
Et c'est au moment donc où il demande l'asile politique en France qu'il attire l'attention des services de renseignement.
Grâce à une information venue d'Irak, l'homme ne serait pas mort, comme le disait la rumeur, mais réfugié en Europe. La DGSI l'identifie, le place sous surveillance, mais ne détecte aucune activité suspecte. Le parquet de Paris décide néanmoins de l'ouverture d'une information judiciaire en novembre dernier. L'homme est interpellé en mars, chez lui, à Lisieux, dans le Calvados. Tout au long de ses 48 heures et 7 auditions de garde à vue, il nie avoir été un cadre de Daesh. Mis en examen pour assassinat, association de malfaiteurs terroristes, mais aussi pour crime de guerre, il devrait être jugé en France, en tout cas pas en Irak, puisque la France refuse toute extradition vers les pays pratiquant la peine de mort.
Charlotte Piret.
Et le ton monte, Bernadette, le ton monte encore entre Donald Trump et les 6 autres dirigeants.
À quelques heures de l'ouverture du G7 au Québec, tweet de Donald Trump, merci de dire au Premier ministre Trudeau et au président Macron qu'ils font payer aux États-Unis d'énormes taxes. Retour donc à l'envoyeur, alors qu'hier, le Français et le Canadien tenaient conférence de presse commune. Pas question, ont-il dit, de se laisser intimider par les menaces de guerre commerciale des États-Unis, et tant pis si la signature du président américain manque au bas du communiqué final. Cela dit, aux quelques journalistes qui accompagnaient Emmanuel Macron dans l'avion, dont vous étiez, Cyril Graziani, eh bien le chef de l'État français a montré qu'il cherchait tout de même l'apaisement.
Dans la salle de réunion de l'avion présidentiel qui le mène de Ottawa à Montréal, il paraît détendu avant le bras de fer qui s'annonce. Pendant 30 minutes, Emmanuel Macron pose ses conditions. Il compte sur ses partenaires, notamment les Européens du G7, qu'il rencontrera à sa demande avant un tête-à-tête avec Donald Trump. Il a été raconté que la semaine passée, le coup de fil entre les deux présidents après l'annonce américaine avait été houleux. Pas du tout, on s'est dit les choses avec beaucoup de clarté, réplique le chef de l'État. Le comportement de Trump, poursuit le président qui a tombé la veste pour l'occasion, conduit à reforger le front européen. Alors finalement, ces divergences à ses yeux ont du bon. Son souhait, surtout, c'est qu'il n'y ait pas d'escalade commerciale. Moins virulent dans l'avion que lors de sa conférence de presse où il avait expliqué qu'aucun dirigeant n'était éternel, visant clairement Donald Trump. Il espère pouvoir avancer à 7 sur des sujets comme la cybercriminalité, le harcèlement, les océans, l'égalité homme-femme. Sur le climat et le commerce, en revanche, il semble déjà ne se faire guère d'illusions. Québec, Cyril Graziani, France Inter.
Alors si Donald Trump est en froid avec ses alliés, il souffle le chaud avec son ennemi jusqu'à présent, en tous les cas, Kim Jong-un. Hier, Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait inviter le dirigeant nord-coréen aux États-Unis si le sommet du 12 juin à Singapour se passe bien. En Italie, des sans-voix qui crient leur colère, travailleurs agricoles, immigrés sous-payés à ramasser les oranges de Calabre, habitués à courber les chines, ils relèvent la tête car l'un des leurs est mort. Soumaïla Sacco, 29 ans, a été abattu le week-end dernier alors qu'il allait récupérer dans une décharge de la tôle pour se construire un abri. Il est devenu un symbole dans une Italie qui vient de voter pour un gouvernement qui promet d'être sans pitié pour l'étranger, fût-il avec des papiers. En Calabre, le reportage de notre correspondante permanente en Italie, Mathilde Imberti.
La photo du jeune malien Soumaïla est accrochée dans le campement de San Ferdinando où il vivait. Un terrain insalubre abritant plus de 3000 hommes africains au plus fort de la saison des oranges, Ibra, sénégalais.
On travaille entre 6h du matin et 6h du soir, voire 7h du soir. Ils nous payent 20-25 euros. La vie est dure ici. On vit dans des baraquements, l'eau arrive au compte-gouttes et il n'y a pas d'électricité.
Après le meurtre de Soumaïla, ses camarades ont cessé le travail et manifesté. Il a été abattu alors qu'il dérobait dans une usine désaffectée de la tôle pour se construire un toit. Le tireur, proche du propriétaire du site, a été arrêté, mais la colère ne retombe pas, décrit Mamadou Dia, médiateur culturel pour une ONG.
Ça leur donne l'impression que pour plein de gens, la vie d'un Africain ne vaut rien, mais eux sont là pour travailler.
Alors que Soumaïla était abattu, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, quelques heures plus tard, dans un autre contexte, déclarait que la belle vie était finie pour les migrants en Italie. Un discours insupportable pour les travailleurs de Calabre.
Désormais, quand il s'exprime ainsi, il parle au nom de l'Italie. Nous, on demande plutôt aux autorités de trouver rapidement des solutions. Ce qui se passe ici, c'est une honte pour l'Italie.
Matteo Salvini n'a pas prévu de déplacement de ce côté-ci de l'Italie. À San Ferdinando, au Calabre, Mathilde Imberti, France Inter.
En France, l'actualité économique et sociale à la SNCF. Pas de sortie de grève en vue à la sortie de l'intersyndicale. Hier, un seul mot d'ordre. Le calendrier de grève est maintenu jusqu'à fin juin. Les syndicats maintiennent la pression avant la commission mixte paritaire de lundi. Députés et sénateurs devront s'accorder sur le texte final de la réforme ferroviaire. Il va donc rester 8 jours de grève, dont 3 pendant la semaine du bac, qui commence le 18 juin. Après l'épisode actuel qui se termine ce soir. Aujourd'hui, donc, le trafic sera d'un TER et un intercité sur 2, 4 TGV sur 5 et 3 Transiliens sur 5. Une éruption d'agriculteurs hier soir dans les stations-service Total de Châteauroux. Ils ont placardé des autocollants pour dénoncer les importations d'huile de palme par le groupe pétrolier Total pour produire du biocarburant. Une menace, selon eux, pour la filière colza. Rien de bien méchant, mais la FNSEA veut passer au stade supérieur, bloquer les raffineries à partir de dimanche soir. Manuel Ruffez.
Ils ont fait le calcul, les agriculteurs, et voilà ce que ça donne. Importer 300 000 tonnes d'huile de palme équivaut, disent-ils, à perdre de leur côté 500 000 hectares de colza, utilisés aussi pour le biocarburant. Ce sont donc ces importations qu'ils dénoncent, mais aussi le bœuf, le porc, la volaille, moins chères mais produites avec des normes moins exigeantes. Damien Greffin, le patron de la FNSEA en Ile-de-France.
Vous comprenez que si Total a intérêt à le faire et qu'elle ne le fait pas à partir de colza qu'elle peut trouver sur son territoire, c'est bien évidemment qu'elle l'achète moins cher et que c'est économiquement plus rentable pour elle. Enfin, aujourd'hui, à un moment donné, il faut faire le choix. Soit on fait le choix de maintenir une agriculture en France, soit on fait le choix de l'agro-industrie ou des multinationales.
Et en plus, ils se sentent mal considérés par le gouvernement en place. Peu soutenus, voire ignorés, affirme-t-il. Alors maintenant, ils passent à l'action.
On essaye d'instaurer un rapport de force. C'est-à-dire aujourd'hui, un agriculteur dans son coin, il est méprisé par ce gouvernement. Donc si à un moment donné, on n'a pas une action envers ce gouvernement pour instaurer un rapport de force, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Donc l'idée de s'en prendre aux raffineries ou aux dépôts de carburant, c'est stratégique pour la France. Donc c'est un levier, un rapport de force qu'on instaure avec Emmanuel Macron.
D'après leurs calculs encore, depuis l'entrée en fonction de ce gouvernement, leurs charges ont augmenté de 4 à 5 000 euros. Par exploitation.
Alors à partir de dimanche soir, les agriculteurs menacent de bloquer Donges en Loire-Atlantique, Grand-Puy en Seine-et-Marne, Fézin dans le Rhône, La Mède dans les Bouches-du-Rhône, en Ile-de-France, 3 dépôts et une raffinerie. Les 4 sites seront bloqués. Le gouvernement a-t-il les aides sociales dans le collimateur ? Interrogé hier sur LCI, sur une quelconque velléité de l'exécutif de raboter jusqu'à 7 milliards d'euros d'aides sociales. Écoutez la réponse du Premier ministre Édouard Philippe.
Ça prouve, vous avez cité vous-même l'hebdomadaire satirique auquel on est tous probablement très attachés, ça prouve qu'un volatile peut dire des âneries, car nous ne nous posons pas la question de savoir s'il faudrait réduire de temps ou augmenter de temps les aides sociales.
Vous ne vous posez pas la question de savoir s'il faut réduire les aides sociales.
Je me pose la question, qui est beaucoup plus intéressante,
de savoir si elles sont efficaces. Ouais.
Voilà, le volatile, c'est le canard enchaîné donc qui donnait cette éventuelle information, alors qu'on attend les conclusions du comité d'experts Cap 22 pour la semaine prochaine et qu'on évoque donc déjà jusqu'à 30 milliards d'euros d'économies de la dépense publique.
Il est 8h10, on en vient maintenant à l'enquête de la cellule investigation de Radio France sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron.
Hier matin, nous vous révélions que le candidat Macron avait bénéficié de rabais extrêmement favorables, par exemple location de théâtre parisien pour 3 000 euros. Au lieu de 13 000 euros, un prix habituellement pratiqué, une ristourne donc de 75%, location aussi d'une péniche à Lyon, la ville de Gérard Collomb, pour 900 euros, deux tiers de rabais. La commission des comptes de campagne a validé ces comptes et elle persiste à dire qu'il n'y a rien d'illégal. Pourtant, Sylvain Tronchet, votre enquête montre qu'elle n'a pas respecté ses propres règles.
Nous avons obtenu un exemplaire du guide du rapporteur. Il est remis à tous les fonctionnaires embauchés par la commission pour examiner les comptes de campagne. Et concernant les ristournes accordée au candidat, il est écrit clairement « La commission admet en principe des rabais dans une limite maximale comprise entre 15 et 20%. Au-delà, il faut engager une procédure de rejet du compte pour don de personne morale, c'est-à-dire aide illégale d'une entreprise à un candidat. Or, il apparaît aujourd'hui qu'un certain nombre de ristournes accordées à Emmanuel Macron dépassaient largement ce seuil de 20%. Nous avons présenté ce document au président de l'association Anticor, Jean-Christophe Picard. Son jugement sur la commission des comptes de campagne est sévère.
Ben, ils n'appliquent pas ni le code électoral, ni leur propre règlement. Donc, ils sont soit dépassés, soit... Ils n'ont pas le courage, peut-être, hein, parce que c'est vrai qu'invalider le compte de campagne du candidat qui a gagné la présidentielle, bon, on va se dire les choses, hein, celui qui fait ça, il a la main qui tremble. Notre démocratie ira mieux lorsque chacun assumera ses responsabilités.
Nous avons donc demandé à la commission des comptes de campagne pourquoi elle n'avait pas appliqué ses propres instructions. Réponse, le seuil de 20% est un cas général, il peut être dépassé sur justificatif. En l'occurrence, la commission s'est contentée de lettres des entreprises qui assuraient que leur rabais au candidat Macron était bien des pratiques normales.
Une enquête complète donc de la cellule investigation de Radio France à retrouver sur le site franceinter.fr et dans l'émission Secret d'info, c'est demain samedi à 13h20. La Méditerranée, mer la plus polluée au monde, le rapport choc de WWF, l'association de défense de l'environnement, est publié aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan. Piège pour le plastique, 144 tonnes se déversent en Méditerranée chaque jour. Ce plastique qu'on produit par millions de tonnes dans le monde et dont seulement le quart est recyclé. Sandy Dauphin, vous êtes rendu aux Pays-Bas dans l'une de ces usines qui tentent justement de trouver des débouchés à ce polluant.
Donc on se trouve au début de l'usine où arrivent des bouteilles de shampoing, des bouteilles de détergent. On va maintenant les couper en morceaux, les nettoyer. Essayer d'en faire des granulés qu'on va pouvoir réutiliser.
Ces granulés gris ou blancs peuvent servir à fabriquer de nouvelles bouteilles de shampoing, des pots de peinture ou encore des bottes en caoutchouc. Jean-Marc Boursier est le directeur général adjoint de Suez en charge du recyclage pour l'Europe du Nord.
Le plastique recyclé fait à partir de notre usine a les mêmes propriétés que les emballages en plastique vierge.
Et pour fabriquer ce plastique vert, Suez s'est allié avec un géant de la pétrochimie, Richard Roudex, directeur général de Lyondell Basel pour l'Europe.
Nos clients nous demandent de plus en plus de matières recyclées. Il y a beaucoup d'arguments qui sont des arguments marketing. On va nous demander pendant quelques mois de faire une campagne de promotion sur tel type d'emballage. Notre objectif, c'est de fournir le choix entre des matières vierges et des matières recyclées.
Mais le plastique recyclé coûte plus cher que le plastique neuf. Pour lever ce frein, il faut des incitations, estime Jean-Marc Boursier de Suez.
Il faut que ça coûte moins cher de faire du plastique à partir de plastique qu'en utilisant du pétrole qui génère des dommages à l'environnement grâce par exemple à un taux de réincorporation minimum. C'est bien de demander aux citoyens de trier plus et mieux, mais encore faut-il qu'il y ait une demande pour les produits recyclés.
Aujourd'hui, seul 7% du plastique que nous utilisons est fabriqué à partir de matières recyclées.
Sandy Dauphin, une question pour terminer. C'est qui, Tchéquie, NATO ? Jeu de mots facile, je reconnais, pas très heureux. Hein. Mais c'est bien la question à Roland-Garros aujourd'hui. Qui est donc cet Italien ? Marco Tchéquie, NATO, invité surprise des demi-finales, inconnu du grand public jusqu'à présent, y compris dans son propre pays, Xavier Sartre.
Le Foro Italico, c'est le cœur du tennis italien. Et pourtant, même ici, le nom de Marco Cecchinato était à peine connu il y a deux semaines de Martina, qui travaille au sein du club.
J'en ai entendu parler, oui, dans le milieu du tennis, mais je ne l'ai jamais suivi. Mais je dois dire qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel et il a été très bon. J'ai suivi quelques jeux du match, vraiment, bravo, exceptionnel.
Tonino Zugarelli, qui s'occupe de la formation des enfants, avoue en savoir peu sur le jeune Sicilien.
J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas suivi de près. Je sais que c'est un garçon qui a tout fait tout seul. Il a mûri, il a énormément été sur le terrain pour travailler, et ça, c'est admirable, parce que ça l'a amené à vivre ce qu'il vit à Paris.
Mais tous, ex-pro comme amateur, reconnaissent ce qu'il a accompli à Paris, comme David, qui échange quelques balles avec un ami.
C'est un exploit typiquement italien. Il y a des gens avec une potentialité qui sont là, mais après, la tête, souvent, n'est pas solide. Et la tête, c'est un peu le point faible des joueurs italiens. Dans ce cas, il a été vraiment très solide.
Alors forcément, cet après-midi, tous vont regarder la demi-finale en espérant que la belle histoire se poursuive. Rome, Xavier Sartre, France Inter.
Oui, sûr qu'il deviendra prophète en son pays s'il se hisse en finale, s'il bat l'Autrichien Thiem. Donc, début de cette demi-finale à 13h sur le Central. Ensuite, l'autre demi-finale opposera, là c'est plus attendu, Nadal à Del Potro. Demain, la finale dames, Sloane Stephens face à la numéro 1 mondiale, Simona Halep. Et puis je rappelle quand même qu'on a des Français en double qui sont en finale, Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert.
Merci Bernadette Chamonaz.